100. Ils dégringolèrent vers la surface lunaire avec une sorte de jubilation. Même Phalum les avait rejoints à présent, et avec l'abandon de la jeunesse, s'abandonnait de tout son cœur à son allégresse, comme si elle retournait vraiment sur Solaria. Quant à Trévise, il sentait en lui un reste de lucidité lui dire qu'il était tout de même étrange que la Terre, ou ce qu'il pouvait en rester, émigrer sur la Lune, la Terre, qui avait pris de telles mesures pour éloigner tous les autres, en prit à présent pour les attirer, eux. Le but pouvait-il être le même dans l'un ou l'autre cas? Était-ce un nouvel exemple du « quand vous ne pouvez plus les éviter, alors attirez-les pour les détruire » Dans l'une ou l'autre hypothèse, le secret de la Terre ne demeurerait-il pas inviolé? Mais cette pensée se dissipa, noyée dans le flot d'allégresse qui s'accroissait à mesure qu'ils approchaient de la surface lunaire. Et pourtant, au-dessus et au-delà de tout ça, il parvint à se raccrocher à l'instant d'illumination qu'il avait touché juste avant qu'ils n'entament leur plongeon vers la surface du satellite de la Terre. Il semblait n'avoir aucun doute sur la destination du vaisseau. Il rasait à présent le sommet des collines, et Trévise, derrière l'ordinateur, n'éprouvait pas le moindre besoin d'agir. C'était comme si lui et sa machine, ensemble, étaient guidés, et il éprouvait une énorme euphorie à se voir déchargé du poids de la responsabilité. Il glissait, parallèlement au sol, en direction d'une haute falaise qui se dressait, menaçante comme une barrière, droit devant eux. Une barrière qui luisait vaguement au clair de terre et dans le faisceau des projecteurs de l'étoile lointaine. L'imminence d'une collision certaine ne semblait pas troubler outre mesure Trévise. Et ce fut sans la moindre espèce de surprise qu'il se rendit compte qu'une section de la falaise, juste dans leur trajectoire, venait de s'abattre pour révéler un corridor brillamment éclairé qui s'ouvrait droit devant eux. Le vaisseau ralentit, apparemment de son propre chef, et s'introduisit impeccablement dans l'ouverture. Il entra, glissa à l'intérieur. L'ouverture se referma derrière lui, tandis qu'une autre porte s'ouvrait devant. Le vaisseau la franchit pour pénétrer dans une salle gigantesque qui semblait avoir été creusée à l'intérieur d'une montagne. Il s'immobilisa et tous à bord se ruèrent vers le sas. Pas un, même pas Trévise, ne s'avisa de vérifier si l'atmosphère extérieure était respirable et si même il y avait une atmosphère. Il y avait bel et bien de l'air toutefois, un air respirable et agréable. Ils regardèrent autour d'eux avec cette mine satisfaite des gens qui sont finalement parvenus à retrouver leur pénate, et ce n'est qu'après un moment qu'ils prirent conscience de la présence d'un homme qui attendait poliment qu'ils approchent. Il était de haute taille, et son expression était grave. Il avait les cheveux couleur bronze et taillés courts. Les pommettes étaient larges, l'œil brillant, et le costume rappelait assez le style qu'on voyait dans les livres d'histoire antique. Malgré son air robuste et vigoureux, il émanait de lui comme une lassitude, quelque chose qui ne reposait sur rien de visible, ou plutôt qui ne faisait appel à aucun sens connu. Phalum avait été la première à réagir. Avec un cri perçant, elle courut vers l'homme, agitant les bras et bramant « Djembi ! Djembi ! » à perdre haleine. À aucun moment elle ne ralentit sa course, et lorsqu'elle fut assez près de lui, l'homme se pencha pour l'élever haut dans les airs. Elle lui jeta les bras autour du cou, en sanglots, hoquetant toujours « Djembi !» Les autres approchèrent plus sobrement, et Trévise lança d'une voix lente et claire, se pouvait-il que l'homme entendît le galactique, « Nous vous présentons nos excuses, monsieur. Cet enfant a perdu son protecteur et le recherche désespérément. Qu'elle en soit venue à vous confondre avec lui, voilà qui ne laisse pas de nous intriguer, vu qu'elle cherche un robot, une créature mécan... » L'homme prit pour la première fois la parole, sur un ton plus pratique que musical. Avec une touche d'archaïsme, mais il s'exprimait en galactique avec une parfaite aisance.
« Soyez les bienvenus en toute amitié, » leur dit-il.
et il semblait indiscutablement amical, même si son visage continuait à demeurer figé dans son expression grave.
« Quant à l'enfant,
poursuivit-il,
elle montre peut-être une plus grande perspicacité que vous ne l'imaginez, car je suis bien un robot. Je m'appelle Daniel Olivo. »